Vous écoutez IDFM, il est 18h.
Bonsoir, bienvenue à toutes et tous dans l'émission Entre Chiens et Loups avec le Pau de Lévis dans l'émission Culture. Oui, bien sûr, ce soir on va parler de culture. On va continuer à parler de culture, mais pas de culture gna 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 gna. J'imite mon invité. Nous allons parler avec une femme de culture. Elle est drôle, elle aime rire et elle aime faire rire. Mais pas que ça, elle sait aussi toucher aux sujets les plus brûlants sans avoir peur de se brûler. Elle pourrait se la péter, comme on dit, puisqu'elle est depuis des dizaines d'années la réalisatrice française. Il n'y en a pas beaucoup. Elle est record woman du monde du nombre d'entrées en salle de cinéma, avec un film repris dans de multiples pays. Trois hommes et un couffin. Elle est comédienne, auteur de théâtre, musicienne, metteur en scène, chef de chœur, réalisatrice, passionnée des arts du cirque. Elle a dirigé d'ailleurs l'Académie Fratellini pendant au moins 2 ans. Et à propos d'Académie, elle a été reçue sous la coupole de l'Académie française. C'est une grande dame de la culture qui aurait pu se faire photographier avec toutes les stars dans les festivals de Cannes à Hollywood, mais elle a gardé un esprit d'enfant, le goût de la blague, de la découverte. Il y a toujours dans son regard quelque chose de juvénile, d'espiègle. Elle est avide de découvertes et très curieuse de tout. Elle aime faire, construire, monter des spectacles et offrir au public des choses qui vont le faire bouger et rire en même temps. Mon invitée est une artiste qui aime l'art et les artistes. Bonsoir, Colline Serrault.
Bonsoir.
Tout d'abord, merci de nous recevoir chez vous, un peu comme vous le faites au théâtre. Sans paillettes et sans artifice. Vous avez ainsi sauté le pas et vous revoilà seul sur la scène du théâtre Michel, un petit théâtre de Paris merveilleux, rue des Mathurins, et vous jouez pour quelques représentations avec vous-même comme sujet principal, ou tout au moins votre vie. Vous l'avez intitulé ce spectacle La belle histoire de Colline Serrault. La belle histoire, ça semble un peu dérisoire, comme on dit. Ah, la belle affaire.
Ah oui, non, c'est la belle histoire, c'est on va retenir ce qui était bien dans une vie, voilà. Il n'y a pas eu que des choses bien dans cette vie. Il y a eu aussi des chagrins et des douleurs comme dans toutes les vies. Mais là, j'ai eu envie de raconter des belles choses, des choses qui soient drôles, qui soient dérisoires aussi, bien sûr, mais et puis aussi j'ai eu envie que ça soit une communication avec les gens. J'ai pas du tout, moi, ma vie, elle est, j'ai bossé surtout, quoi, mais elle est pas tellement plus intéressante à part ça que celle des autres. Sauf que j'ai envie de partager. Moi, ce qui me fait kiffer d'être là, c'est que je suis avec les gens, quoi. Je suis en vrai avec les gens. Un film, on n'est pas en vrai avec eux. Ouais, moi, je vais souvent dans les salles, j'écoute comment ils réagissent, mais là, on est ensemble. On vit ce moment-là, et c'est du vivant, et c'est improvisé, et ma vie n'a d'intérêt que si elle rentre en relation avec celle des autres.
Alors, on peut se demander, Colline Serrault, comment cette vie d'artiste a commencé? Est-ce que c'était votre rêve de vous donner en spectacle ou de vous offrir au public, d'être sur scène? Comment tout ceci a commencé?
C'est-à-dire que je suis un peu née dans un théâtre parce que mon père dirigeait un théâtre et puis il a toujours mis en scène et ma mère était très attachée au théâtre aussi. elle écrivait pour le théâtre, elle dirigeait une collection littéraire avec Maurice Nadeau, donc c'était des artistes qui déjà étaient des amoureux du théâtre. Mais moi,
on va dire leur nom.
Oui, c'était Geneviève Serrault et Jean-Marie Serrault. Dans son théâtre, le théâtre de Babylone a été créé. Godot, il a découvert, enfin, il a monté dans le premier Brecht, puis je sais pas, Arabal, Vinaver, Césaire, Katebiassine. Enfin, c'était un découvreur de textes. Et ma mère, en cela aussi, avait beaucoup, beaucoup de flair. Elle était formidable. Donc, j'étais baignée dans ce milieu très littéraire, très théâtral, culturel, et aussi pictural, parce que tout le monde était peintre chez nous. Donc, mon grand-père était directeur des Beaux-Arts, mon père était, en fait, de formation architecte, il dessinait comme un dieu. Donc, on a eu ces gènes-là aussi, les gènes de l'image, de la beauté, et puis tout le monde était musicien. Donc, si vous voulez, j'ai baigné dans une espèce d'atmosphère comme ça, et puis, mais je me suis pas dit, tiens, je vais jouer sur les planches. Non, moi, je voulais être musicienne au départ. Donc, j'étais d'abord organiste. J'ai étudié l'orgue très sérieusement. J'ai été au Conservatoire National Supérieur de Paris, à rue de Madrid, en histoire de l'art, en esthétique. J'ai fait de l'harmonie, j'ai fait du piano, de la guitare classique. Enfin, c'était vraiment ça que je voulais faire. Et puis, l'orgue, c'est un instrument que j'adore et que je joue encore beaucoup, mais c'est très solitaire, je crois que j'étais quand même faite pour vivre avec des équipes, diriger des équipes et aussi être parfois très seule en écrivant. Il y avait ces deux mondes et donc j'ai abandonné la musique et je me suis inscrite au cours à l'école de la Rue Blanche et j'ai réussi le concours mais par un cheveu hein, parce que tout le monde me trouvait trop bizarre quoi. Mais Jacques-Henri Duval m'a quand même rattrapé par les cheveux mais il a dit je pense que celle-là peut-être qu'elle est un peu comique. Donc et j'ai adoré travailler avec lui. Il m'a appris tellement de choses. Il m'a appris beaucoup de choses. C'est un super acteur de boulevard, Jacques-Henri Duval. Pas connu, mais type formidable. Donc j'ai fait la Rue Blanche et puis après ça s'est embringué. Mais tout le bagage que j'avais avant, je ne l'ai jamais lâché. Donc c'était tout naturel. En plus j'étais à Rade Cinémathèque depuis l'âge de 12-13 ans. Donc c'était tout naturel que... Comment dire, le cinéma rassemblait tout. Le cinéma, c'était l'image, c'était le son, la musique, le jeu des acteurs que je connaissais. J'avais tout le temps vu mon père diriger. C'était le plateau, c'était. Et puis diriger une équipe, j'avais l'impression que je savais le faire, quoi. En tout cas, pour un but, parce que je dis toujours, de 8h à 18h30, j'étais le boss. Sur un plateau de cinéma, mais totalement le boss, là. Et puis, à 18h30, j'étais rien, et je ne voulais plus être rien. J'étais plus dirigé, rien du tout. J'ai pas aimé diriger, j'ai aimé prendre et faire sortir le meilleur d'une équipe pour un but qui nous dépassait tous.
Qu'est-ce qui vous reste de cette école de la Rue Blanche où il y a eu quand même beaucoup de comédiens mais aussi de techniciens qui sont passés? On apprenait un peu tous les métiers dans cette école qui est un peu mythique.
Oui, c'était très très bon, bien, mais le problème c'est que la Rue Blanche, nous à l'époque il y avait un racisme contre les techniciens, on n'était pas très mélangés, hein, c'est pas vrai. Maintenant je pense que c'est beaucoup plus mélangé à Lyon, mais nous on était, moi j'avais plein de potes dans les techniciens, justement dans les décorateurs, dans les couturières et les costumières, tout ça. Moi j'aimais bien parler avec eux, je trouve que c'était intéressant, mais on n'était pas, en même temps on était quand même dans la même école. Et puis il y a eu 68 et je ne sais pas comment ça se fait parce que moi j'étais quelqu'un de très timide et pas du tout j'étais pas du tout on me voyait pas tellement hein, dans l'école. Mais après il y a eu 68 et dans toutes les écoles ils élisaient il y avait des comités d'action en mai 68 et ils m'ont élu à l'unanimité présidente du comité d'action de la Rue Blanche, alors que j'avais rien demandé, j'étais même pas du tout candidate, donc je sais pas. Et donc là, évidemment, on a occupé le centre, on a refait le monde, et puis quand tout s'est rentré dans l'ordre, on a été viré.
Alors, mais est-ce que c'est la seule fois où vous avez été viré de quelque part, Colline Serrault?
Je sais. Non, j'ai pas. À part ça, j'ai pas été tellement viré. C'est souvent que je suis partie, par contre.
Oui, j'imagine bien. Dans le spectacle que vous donnez, la belle vie de Colin Serrault, vous évoquez un souvenir qui est à la fois très drôle, très émouvant, très intéressant aussi parce qu'il est très constructeur. C'est votre histoire éducative à l'école de Beauvallon. Je crois que ça a quand même été très marquant. Racontez-nous un peu l'histoire de cette école curieuse dans laquelle vous vous êtes senti vraiment chez vous.
Ben, c'était une grande école. Maintenant, c'est devenu célèbre parce que c'est comme toujours les grands trucs. Ça met très longtemps des fois à ce qu'on comprenne à quel point c'était grand. C'est une école nouvelle qui était issue de tout ce grand mouvement de l'éducation nouvelle, ce qu'on a appelé l'éducation nouvelle, qui a eu lieu dans les années 30 déjà. Et c'était tout ça avait lieu à l'Institut Jean-Jacques Rousseau à Genève, qui était créé par Claparède, où il y avait toutes les méthodes qui sont venues, Montessori, De Croly, Piaget. C'était des gens qui pensaient l'éducation autrement, et c'était très intéressant ce qu'ils pensaient. Personne dans cette éducation nationale française ne s'en est du tout inspiré, et on voit les dégâts maintenant que ça fait. Et donc elle avait étudié Marguerite Souperran, qui était la directrice de l'école, et qui a débauché Catherine Kraft, qui était aussi à Jean-Jacques Rousseau. Elles sont allées, elle a décidé qu'elle voulait créer une école pour parce qu'elle dit si le monde va mal, il faut commencer par la base, il faut commencer par les gosses, faut commencer par. Donc elle a construit l'école. Alors je vais pas tout spoiler parce que c'est dans le spectacle. Mais c'était une école qui a été très importante pour nous tous, pour tous ceux qui y sont passés. C'est des dizaines de gosses qui y sont passés. Et puis ça a été une école très importante pendant la guerre.
Et puis c'était une école qui est située dans la Drôme, et c'est un endroit que vous aimez beaucoup.
Ben, c'est mon origine, parce que mon grand-père était aussi Cévenol, mon arrière-grand-père et mon grand-père. Donc, c'était un retour dans le pays de la famille. Et pendant la guerre, mais d'ailleurs, Dieulefi est en passe de devenir un des trois villages, de juste. Parce que il y a eu 10 000 faux papiers, à la mairie de Dieulefi. Il y avait une femme, Jeannette Barnier, qui était extraordinaire, elle prenait des risques. Et c'était à l'instigation de Marguerite Souperran. Il n'y a jamais eu une dénonciation à Dieulefi. Il y avait plein d'enfants juifs cachés dans l'école, tous les intellectuels. Il y avait des gens qui disaient c'était le quartier latin de la France occupée, quoi. Il y avait Aragon, Rocher, Vols, des peintres très connus. Enfin, la liste est longue, vous pouvez trouver sur Internet. Il y a eu un moment, il y avait quelques gosses cachés dans les fermes autour. Et là, les policiers français, n'oublions jamais que la France a été collabo, une partie de la France. Tous les policiers sont pas à condamner, hein. Dieu sait si ils sont utiles. Mais ceux-là, bon, c'était des salauds. Et ils ont raflé les mots, et elles sont allées jusqu'à Lyon dans les mains quasiment de la Gestapo, les arracher en faisant des faux, disant qu'ils étaient plus, etc. Enfin bon, elles se sont battues et elles les ont sauvées. Et c'est pour ça qu'elles sont toutes les trois celles qui dirigent. Elles sont dans les justes, elles sont au Panthéon. Oui.
Formidable histoire. C'est une histoire évidemment que vous n'avez pas connue puisque vous êtes né après la guerre. Sur le plan de votre formation à la fois artistique et personnelle, ça a été quand même important. Je me souviens qu'à Dieulefi, qui est un village de potiers, s'était installé un des frères Jacques.
Oui, hein, bien sûr. Mais juste à côté de chez nous, oui, oui, oui. Ben c'était un Souperran, c'était un neveu de Marguerite Souperran. Oui. Ce qui était inspirant, bien sûr, c'est toute cette éducation qu'on a reçue, qui était extrêmement naturiste et proche de l'écologie. Au fond, moi, c'est là que j'ai pourquoi depuis ma naissance quasiment j'ai été baigné dans l'écologie avec ça. Le traitement homéopathique, aucun médicament, juste la nourriture saine, le repos. La médecine était extraordinaire là-bas. Il y avait jamais de malades. On était, enfin bon. Mais ce qui m'a aussi beaucoup frappé, parce que même étant né après la guerre, on a été imbibé des histoires de la guerre. Parce qu'on nous a tout raconté, et puis que les gens ont eu faim, ils n'avaient pas la santé qu'on a maintenant, hein. Ils sortaient de 5 ans affamés, mes parents. Hein. Et ce qui m'a beaucoup touché et frappé dans toute cette histoire de la résistance, c'est que quand on sent qu'une chose est juste, quand on est intimement persuadé qu'une chose est juste, il faut s'y accrocher, même si on est totalement minoritaire. C'est-à-dire que ils étaient totalement minoritaires, les résistants. Après, il y avait 90% de gens qui se sont dit résistants. Mais au début, ils étaient seuls, ils étaient en danger, ils étaient pas reconnus. Et ben, c'est pas grave, ils ont continué. Mais c'est pareil pour Van Gogh, c'est pareil pour tellement d'artistes, pour Schubert, qui a été complètement ignoré de ça. Donc, ça a été le concret du fait que tu sois reconnu ou pas, tu t'accroches à ce que toi, à quoi toi tu crois dans ton art et dans ton éthique et dans ta vision politique des choses.
Voilà quelque chose qui aurait, des paroles qui auraient plu à un de vos musiciens préférés, qui a construit aussi une œuvre gigantesque qui relie le ciel et la terre, et vous avez choisi de nous faire écouter le Cum Sancto Spiritu de la messe en si de Jean-Sébastien Bach. On se retrouve dans un tout petit instant avec Colin Serrault.
Écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM. Jean-Sébastien Bach, toujours dans l'émission Entre Chien et Loup avec Claude Lévy, et c'est un très très grand plaisir de partager ce moment-là avec Colin Serrault, qui connaît très bien, qui est musicienne évidemment, et qui connaît très bien la musique et la vie de Jean-Sébastien Bach. Peut-être une anecdote.
Oui, bon, comme la messe en 6, c'est un chef-d'œuvre absolu. Nous, on le chante aussi, ce Cum Sancto Spiritu, mais on le chante à 5, parce que je voulais qu'on entende les voix. Je dirige un chœur pratiquement professionnel de 5, on est 5. Mais ce que je voulais dire sur Bach, et pour revenir à cette histoire de résistance, quand il, comme toujours, tous ces musiciens essayaient de se placer dans les divers petits états roitelets de l'Allemagne. Et il y a un moment, il a postulé et les gens ont dit. Et puis il y avait plein d'autres musiciens. Et finalement, ils voulaient absolument avoir Telemann, mais Telemann n'était pas libre. Et tous d'autres grands qui sont complètement oubliés aujourd'hui n'étaient pas libres. Donc dans le compte rendu, il y a marqué bon, on a finalement dû prendre un type assez médiocre, mais il a un avantage, il connaît bien le latin, donc il pourra faire bosser les gosses, quoi. Et c'était Jean-Sébastien Bach.
Ah oui, un raté en quelque sorte.
Raté, quoi. En plus, quand il est mort, Jean-Sébastien, pendant 70 ans, 80 ans, on n'a plus du tout joué une seule de ses œuvres. Il a été redécouvert 80 ans après par Mendelssohn. Donc, tout ça, il faut se dire que tout est relatif. Les choses, c'est ce que disait Brecht aussi, ce qui est important, c'est ce qui est devenu important. C'est pas l'écume moussante là, de l'instant.
Oui, de l'écume, il en est peu question dans votre spectacle que vous jouez au Théâtre Michel, La belle vie de Colline Serrault. La belle histoire. Pardon, la belle histoire de Colline Serrault et donc vous ouvrez comme une sorte de journal intime qui est à la fois drôle et puis assez palpitant et on vous découvre sous différents jours. Alors vous qui êtes comédienne, réalisatrice, auteur de théâtre, metteur en scène de théâtre, d'opéra, musicienne, on l'a dit, donc c'est des choses très sérieuses, mais aussi vous êtes passionnée par quelque chose qui semble beaucoup moins sérieux. Et pourtant, c'est le cirque et les arts du cirque. J'aimerais savoir en quoi cela vous habite et en quoi cela vous a en partie construit.
Construite. Non, mais c'est marrant cette espèce de dévalorisation qu'il y a sur le monde du corps. Ça, c'est tellement typique de la société occidentale qui n'a aucun sens de la dialectique et pour qui le corps c'est inférieur à l'esprit. Alors que les civilisations latines et grecques étaient tout à fait dans une autre dimension. Il y avait mens sane, in corpore sano. C'était vraiment, on ne peut pas imaginer, mais ce qu'il y a derrière ça, c'est pas seulement des beaux athlètes, c'est aussi la santé physique qui induit la santé mentale. Et notre civilisation, elle est extrêmement malade. Parce que le corps est passé après, parce que le corps c'est une espèce de bout de viande, il y a un truc, paf, on a un médicament pour ça, alors qu'on a un hôpital dans nous. Et il y a aussi le fait que, c'est un peu adjacent, mais le travail qu'il faut sur soi, le travail de dépasser tellement de limites pour faire une chose physiquement, pour être un athlète, c'est un travail de vie, c'est pareil, c'est pas mieux que d'écrire des bouquins, ça va quoi. D'abord, les trois quarts des bouquins, vous pouvez les jeter après les avoir lus. Le travail sur le corps, c'est un chemin de vie. Et aussi, dans mon cas particulier, si je voulais continuer à faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire, je jouais le soir, pratiquement tous les soirs pendant 30 ans, j'ai joué. Je tournais ou j'écrivais dans la journée. J'avais une famille, j'élevais des gosses, plus tout ce que je faisais. Je veux dire la musique. Je ne pouvais pas le faire si j'étais pas une athlète.
Et précisément dans ce spectacle que vous nous offrez au Théâtre Michel, une heure et demie de régal autour de votre histoire, Colline Serrault, vous présentez quelque chose d'extraordinaire. Plusieurs choses extraordinaires, mais la première, c'est qu'on vous voit sur un trapèze à toute vitesse et dans des conditions incroyablement virtuoses. Vous étiez, ou vous êtes peut-être encore, une virtuose du trapèze volant. Incroyable.
Oui, c'est pas le trapèze volant, parce que c'était le trapèze volant, c'est avec un porteur et à plusieurs. Là, c'est solo, c'est en grand ballant, quoi. J'avais un numéro qui était pratiquement pro et j'allais trois fois par semaine. Mais c'est ce qui m'a soutenu. C'est-à-dire que j'avais une telle force grâce à ça. Bon, j'avais une force au départ, mais grâce aussi à l'école de Beauvallon, parce qu'on était tout le temps dans la nature. Donc, mais je pense qu'un artiste, C'est pour ça que ça m'agaçait tellement, cette histoire de tous ces mecs qui se bouffent de la coke et qui meurent à 45 ans. Ça veut dire quoi, ça? Moi, je pense qu'on a un corps, qu'il est beau, qu'il est comme il est, beau ou pas beau. Enfin, moi, je trouve que tous les corps sont beaux. Et il faut les cultiver comme un bien précieux, comme on cultive un jardin, comme sans les faire mourir, comme on fait mourir la terre. C'est un don et c'est une culture. Et avec ça, quand on a un corps qui marche bien, qui est bien nourri, qui fait gaffe, etc., on a une beaucoup plus grande puissance artistique et intellectuelle. Intellectuelle. Alors là aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, mais vous êtes une saltimbanque. Ben, c'était avec gentillesse, mais c'est comme si c'était méprisant, vous voyez. Mais non, c'est très sérieux, les arts du cirque. C'est très sérieux de lire Freud, c'est très sérieux de lire les grands auteurs du 19e siècle, tout est sérieux. Mais mépriser le corps, c'est vraiment un truc, c'est bête.
Alors, mais vous avez trouvé quelque chose qui est étonnant, c'est dans cet hymne à l'amour du corps, des corps... c'est la découverte et la mise en scène du hip-hop. Et alors ça, c'est quand même vous, l'académicienne, la réalisatrice, la metteur en scène de toutes sortes de choses, vous aimez le hip-hop et vous le faites entrer dans vos spectacles. C'est la danse urbaine. Comment est-ce que vous avez connu ça et qu'est-ce que vous sentez que ça apporte dans vos spectacles?
C'est très très important la danse hip-hop. Je l'ai pas découvert d'ailleurs. Il y a eu des grands découvreurs de cet art. D'abord ça a totalement transformé le langage chorégraphique du 20e siècle et du 21e. Ensuite c'est un art qui est sorti d'un tel profond désir qui n'a pas été encouragé par personne. C'était des artistes, ils étaient des danseurs. Ils étaient nés danseurs, nés virtuoses. Et c'est des gars, quand vous voyez travailler, mais ils travaillent du matin au soir. Ils sont tout le temps en train d'essayer de voir si ce pas ils réussissent, si ça ils vont là. Et alors qu'on voit à l'Opéra de Paris comment on force les gosses, qui sont aussi d'ailleurs des passionnés, hein. Mais là, c'est un art qui est né aussi de la souffrance, mais qui dépasse la souffrance, qui ne parle pas que de la souffrance. C'était un art d'immigré, hein, et qui plonge ses racines dans du rythme et dans totalement autre chose, quoi. Ils ont inventé quelque chose qui ne ressemble qu'à eux, qui ne ressemble ni au Maghreb, ni à la France, qui est la vie et l'art de ces quartiers, et qui est du très grand art, parce que c'est délicat, c'est très souvent, ça peut être très très classe, et ça exprime des choses profondes, et ça parle à tout le monde aime ça, quoi. Et je crois que vraiment ça a été une révolution chorégraphique très très importante, et moi j'ai eu tout de suite envie de l'intégrer. Je l'ai intégré dans La Belle Verte, j'ai dirigé donc l'Académie Fratellini, j'ai voulu mélanger cirque et hip-hop, ça faisait hurler les circassiens, mais je m'en fous. Puis à l'Opéra de Paris, dans La Chauve-souris, je les ai fait rentrer aussi.
Alors précisément, j'aimerais qu'on en parle de cette expérience fantastique, parce que tout de même, monter une pièce dans une petite salle, c'est quelque chose, mais monter La Chauve-souris de Richard Strauss à l'Opéra Bastille, avec une armée de comédiens, de danseurs, de chanteurs évidemment, et puis un orchestre, vous avez monté ça, vous en donnez d'ailleurs un extrait qui est sublime, aussi virtuose en je ne sais pas comment on appelle, c'est des ballets aériens, voilà.
Oui, ben moi j'étais tout à fait dans mon élément là, c'était pour moi l'opéra, c'était génial parce que il y avait tout. Il y avait tout ce que je sais faire, il y avait la musique, il y avait les comédiens, les chanteurs, le texte, essayer d'extraire ce qu'il y avait de plus beau dans ce texte, dans cette musique, dans le sens aussi de cette histoire. Et puis il y avait ce qui est formidable dans la chauve-souris, c'est qu'il y a un grand moment où on fait un peu ce qu'on veut. Il y a une espèce de, et même à Vienne c'est comme ça. C'est une espèce de pot-pourri, c'est pour la fête du Nouvel An, et on met ce qu'on veut. Donc moi, je me suis
Vous avez fait rentrer quoi?
Ah ben, j'ai fait rentrer les hip-hop, j'ai fait rentrer James Thierry, Camille Boitel, et puis d'autres aussi après. Et puis, j'avais des mimes aussi qui sont, on appelle mimes, mais qui sont des acteurs qui font des cachets là et qui étaient vachement bien. Et puis, et il y avait le chœur. Bah, c'était des équipes de 200, 300, 400 personnes, quoi. Mais c'est comme au cinéma, vous savez, c'est pas tellement. Et c'était ma première expérience à l'opéra, c'était pas toujours évident. Puis il y a beaucoup de machos à l'opéra, mais j'y suis arrivée quand même.
Mais alors faire jouer et faire travailler ensemble 200 personnes et arriver à la date dite et on ouvre le rideau et tout joue, il faut être vraiment très organisé. Vous êtes très organisé dans votre tête.
Oh là là, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Mais c'est pas que moi, c'est l'opéra qui est très bien organisé. Et là, l'opéra a été dirigé par un très très grand directeur d'opéra qui n'y a jamais eu depuis. C'était Hugal. Et Hugal, c'est un génie de la... pour faire marcher une boîte, parce que lui, ce qui était formidable, l'opéra marchait très bien, les services marchaient bien, c'était les meilleurs dans tous les services, c'était vraiment une ville, quoi. Mais en plus, ce qu'il avait, et qu'il n'y a jamais plus eu après, c'est qu'il avait le sens du public, c'est un homme de théâtre, c'est un homme qui aime le théâtre, qui aime le public. Donc il avait une programmation qui était très éclectique. Il y avait des gens comme moi qui sont connus pour faire des choses pour le public, tout en étant extrêmement exigeant. Puis il y avait des choses beaucoup plus modernes. Il y avait aussi Zambello qui venait d'Amérique, qui faisait des trucs formidables. Il avait vraiment une éthique de l'argent public qui doit aller pour le public. Et il a vraiment fait un boulot incroyable à Garnier. Il avait les deux opéras sur le dos. Moi, il m'a demandé deux opéras et ça a été deux expériences vraiment géniales avec lui. Mais ça, bon, d'accord, oui, moi, je suis une bosseuse, je suis très organisée, j'avais une vision très précise, j'avais des collaborateurs, Jean-Marc Stellet, Antoine Fontaine au décor qui étaient des génies. J'avais une direction qui me suivait. Dans un théâtre, si vous êtes, c'est pas comme si je créais ma pièce. Là, je rentrais dans un théâtre où il y avait une programmation où la musique et c'est pas de moi, quoi. Si vous n'avez pas quelqu'un qui vous suit, quelqu'un de génial à la tête, vous pouvez pas, ça peut pas marcher. J'étais soutenue par Hugues Gall. Et je dis ça parce que après, il y a eu tout un tas de polémiques et c'était des brêles après lui.
Hugues Gall, hein. Effectivement, très grand directeur des opéras de Paris qui vous a marqué, semble-t-il. Il y a dans votre spectacle La belle histoire de Colline Serrault au Théâtre Michel, vous évoquez quelque chose de très drôle. Vous faites plusieurs sketchs à vous toute seule et c'est assez génial parce que vous racontez comment ça s'est passé à Beyrouth, un soir, avec un cheval qui devait passer de cour à jardin.
Mais ça, je vais pas le raconter, parce que je vais pas spoiler le spectacle. Non, non.
Mais
c'est une critique d'un certain type de mise en scène, un peu viriliste. Vous voyez ce que je veux dire?
Un peu, mais bon, on va se retrouver dans un instant. On va parler de cinéma, on va parler de musique, mais on va en écouter justement de la musique. On va écouter un morceau de Schubert. Je ne dis pas lequel, quelque chose de très raffiné, comme vous aimez, vous adorez Schubert, non?
Oui, j'aime beaucoup Schubert. Là, on va écouter Ständchen. Qui veut dire sérénade. Et Schubert a eu des histoires d'amour difficiles, a pratiquement pas eu d'histoire d'amour. Et c'est un très très beau lied qui se termine par les paroles « Comme beglücke mich, viens et rends-moi heureux ».
Eh bien, on va essayer d'être heureux et on l'est déjà avec vous. À tout de suite, on retrouve Colline Serrault. Thank you.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Vous êtes bien dans l'émission Entre Chien et Loup, en compagnie ce soir de Colline Serrault, surtout connue pour ses films qui ont eu un succès immense à leur sortie et qui continuent à être des références du cinéma français. C'est quand même curieux, ça vous surprend vous-même, Colline Serrault ?
Oui, ça me... enfin surprend, j'ai toujours voulu ça, mais ça me rend surtout très heureuse. Et puis c'est surtout que... c'est comme, vous savez, les films, c'est comme un enfant. On le fabrique, on l'élève, c'est long, c'est tout ça, c'est des soucis, c'est, et puis après on le lance dans le monde, et puis il devient ce qu'il devient. C'est plus vous qui contrôlez, c'est plus vous qui, vous avez plus rien à voir, c'est le public qui devient l'acteur, en fait, de la vie de ce film. Et c'est ça qui est tellement beau, c'est que tout d'un coup les gens s'en emparent. Et il s'en empare de plus en plus ou de moins en moins, mais ça devient, et vous contrôlez pas ça. Ça devient une chose que vous avez, une graine qui pousse tout d'un coup. Et de voir qu'elle pousse bien et qu'elle pousse longtemps, c'est très très heureux pour une mère. Parce que je suis aussi une mère.
Ah oui, 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 ça on l'oublie pas. Vous aviez des ancêtres dans le cinéma, vous aviez quelques modèles qui vous donnaient envie de faire des films, Colline Serrault ?
Ah non, non, j'ai personne dans le cinéma. Non, ils sont tous peintres ou musiciens ou acteurs ou...
Mais peut-être des parents d'emprunt, des cinéastes.
Ah non, ah oui, enfin moi j'ai pas, je voyais tous les films qui sortaient, je voyais tous les vieux films, j'étais un rat de cinémathèque, mais il y a peu de cinéastes qui m'ont influencé. J'ai plutôt été influencé par la musique, par Bach, par Rembrandt surtout, par des grands peintres, par Gauguin, Matisse. C'est l'image, c'est la philosophie aussi. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup réfléchi à la société, comment elle avançait, les grands auteurs marxistes, les féministes, les l'écologie, et c'est plutôt ça qui m'a marqué. Les cinéastes, pour moi, il y a deux cinéastes au fond qui m'ont vraiment vraiment influencé, c'était Chaplin et Lubitsch. En dehors de ça, je peux pas dire, parce que ça n'a pas duré, disons, pas tant que ça, quoi. Mais ça
donc un cinéma soit comique, soit profondément humoristique, aussi bien chez l'un que chez l'autre.
Mais moi, j'ai jamais décidé de faire rire ou d'être drôle. C'est pas une décision. C'est une vision du monde. Lubitsch est drôle parce qu'il voit le monde. Il le voit avec une très très grande lucidité. Il voit les personnages, il voit leur comique. Mais c'est pas une décision qu'on prend. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on voit le monde, et le monde nous fait rire parce qu'il est à la fois pathétique et tellement touchant.
On va revenir là-dessus. Racontez-nous en deux mots comment s'est faite la production de Trois hommes et un couffin. Rappelons que c'est le plus grand succès français pratiquement, avec 12 millions d'entrées. C'est absolument astronomique.
Oui, comme j'en parle dans le spectacle, je vais peut-être pas trop le décrire.
Un tout petit peu. On a André Dussolier, qui est très très drôle dans un making-of inoubliable. On a Roland Giraud et puis Michel Bougenat, trois comédiens.
Ce qu'il y a, c'est que ça n'a pas été facile, voilà, disons. Je peux résumer ça comme ça. Tout le monde pensait, franchement, que de parler d'un bébé, ça n'avait aucun intérêt pour personne. Vraiment, on a été en but à cette espèce de racisme anti-vie quelque part. Et non, c'était déchoir, c'était un truc sans intérêt, un truc de meuf, quoi, de fa-femme, quoi. Et les gens, enfin, il y avait une absence de vision. de ce qui était en train de changer dans la société. Parce que Trois hommes et un couffin, c'est pas seulement un film drôle, c'est un film qui désingue le patriarcat, hein, et le paternalisme, et qui c'est un mythe retourné, parce que le vrai mythe, c'est les rois mages, c'est les trois rois mages, avec les trois âges de l'homme qui est le père, le frère et le fils, quoi. Ce qu'ils adorent, ce n'est plus un Christ, c'est une Christette. C'est une fille que tout d'un coup qui est tout d'un coup le centre du monde et qui est tout d'un coup la chose précieuse, c'est-à-dire l'avenir du monde.
Absolument, l'avenir.
Ça a été verbalisé, mais je m'en fous. Oui, oui. C'est ça qui est passé dans l'inconscient.
Oui, oui. Mais vous avez refait ça avec la crise, puisque on y retrouve la place de la femme, et notamment dans une scène encore mythique avec oui. Avec votre complice Maria Pacôme, extraordinaire.
Oui, oui, c'est ça. C'est là aussi, c'est la. Et moi, je suis très heureuse que cette scène ait plu, surtout, enfin, beaucoup aux femmes, bien sûr, mais beaucoup aux hommes. Ça m'a bouleversée, ça. Je me suis dit, mais comment, à quel, je me suis pas rendu compte comment ça les touchait, eux, quoi, comment ils étaient. En fait, ça les soulage, cette scène. Tout d'un coup, ils sont libérés d'une certaine culpabilité vis-à-vis de leur mère. Et leur mère, elle est, ça va, quoi. Elle peut être bien, quoi. Il n'y a pas, à la fois, il y a une espèce de haine de la mère, en même temps de culpabilité, d'amour, de machin. Tout ça, ça s'évanouit, là, avec elle.
Ça s'évanouit, mais d'une manière absolument hilarante, parce que vous jouez sur scène tous les personnages de cette situation-là, et je vous la laisserai découvrir. Mais alors, j'ai envie de vous poser une question idiote. Colline Serrault. Est-ce que vous êtes une féministe?
Alors, c'est très simple, hein, la réponse. On ne sait pas la définir. Il faut d'abord, quand on parle d'un terme, il faut le définir. Voilà, féministe. Il y a deux. Si ça veut dire qu'on est pour l'égalité entre les hommes et les femmes, je suis féministe et je ne vois pas qui ne peut pas être féministe. Celui qui dit qu'il n'est pas féministe, si cette définition c'est ça, il va en prison. Il est contre l'égalité. Hein. Liberté, égalité, fraternité, c'est au milieu de toutes nos valeurs, quoi. Donc voilà, évidemment que je suis pour l'égalité mais pas que entre les sexes, je suis pour l'égalité entre les gens, tout simplement, hein. Y a pas, c'est pour ça aussi que les combats de classe sont justes, parce que c'est pas parce que quelqu'un s'occupe de son corps ou fait des choses manuelles qu'il est en dessous d'un gars qui, je sais pas quoi,
En quoi vous n'êtes pas féministe, alors?
Ah mais je veux pas définir ça. C'est il y a toutes sortes de manières pour les dirigeants et pour ceux qui s'y profitent de ce système de dévaloriser le combat des femmes. Ce sont des abrutis. Laissons-les là où ils sont. Ils sont pas dans le sens de l'histoire. L'histoire va dans ce sens-là. Et quand on pense à toutes ces grandes héroïnes qui se sont bagarrées pour qu'on ait le droit de vote, mais vous savez quand on a eu le droit de vote?
46 peut-être.
Après-guerre. Hein, moi, un an après, je naissais. Et quand est-ce qu'on a eu le droit d'ouvrir un compte en banque? Nous.
En 64 ou 65.
C'était pas Néandertal. C'était n'importe quoi, cette société, avant. C'était n'importe quoi. Et là, c'est encore beaucoup n'importe quoi. Donc, quand on me dit, est-ce que vous êtes féministe? J'en sais rien, mais je suis pour l'égalité. Il n'y a aucune raison. Et puis, attendez, on n'est pas une minorité sympathique. On est plus que la moitié du monde. En France, on est 2,5 millions de plus que d'hommes. Donc quand on demande la parité, on est vachement sympa.
Voilà qui sera entendu. Vous avez été engagé très, très, très avant tout le monde pour l'écologie. Et vous avez fait un film qui est assez drôle, enfin, qui est une sorte de mythologie, une mythologie qui dit, enfin, il faut changer de planète, ou ça s'appelle La Belle Verte. Mais vous étiez déjà très engagé là-dessus. Et vous l'êtes toujours, mais d'une manière assez moqueuse, Colline Serrault.
Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de peintures vertes, hein, maintenant. Puis il y a tout ce truc. J'appelle ça les yogis yogourtes, oui. C'est les gens qui ont un petit peu surfé sur la vague, hein, en gagnant beaucoup de fric là-dessus. Voilà, je les mets un peu en boîte dans mon spectacle, mais par contre, le combat pour la santé, pour l'écologie, c'est un grand combat que je mène depuis des siècles.
Oui, voilà, mais parce que dans la Belle Verte, on monte à beaucoup de siècles en arrière.
Non, mais c'est 1995. Hein. Et j'ai commencé à l'écrire dans les années 90, début, donc...
Non, mais ça commence par une sorte de mythe fondateur, d'une prise de conscience extraordinaire dans un paysage de campagne. Enfin, tout ça est à la fois très, très sérieux, mais aussi très romanesque et très drôle. Très théâtral, au fond.
Ouais, il faut pas le voir au premier degré. Hein. La Belle Verte, c'est devenu un truc c'est surtout la jeunesse maintenant qui s'en empare. Oui, il y a des choses drôles, mais il y a une sacrée philosophie derrière.
Ouais. Bon, on peut le revoir encore, La Belle Verte. Votre façon de faire rire, parce que vous adorez faire rire. Je disais, vous avez gardé ce visage d'enfant. Il y a quelque chose de bide de clown que vous avez comme ça, mais ça, c'est normal. Vous êtes une femme de cirque et vous raillez le monde. Vous disiez à propos de Lubitsch et de Chaplin qu'ils voient le monde. Comment vous le voyez le monde, surtout aujourd'hui?
Ah ben là. Il y a vraiment plus que, dans ce désespoir général, il n'y a plus que l'humour, quoi. Parce que là, tout va de travers, hein. Le monde, il marche sur la tête. Je ne sais pas si ça va se redresser, j'en sais rien.
On ne sait pas. Je vous laisse l'idée, vous qui êtes assez visionnaire. Mais je préfère que vous gardiez votre réponse pour vous, parce qu'elle risque de nous affoler un peu.
Mais non, je ne vais certainement pas donner des mauvais augures.
Mais ce que vous détestez par-dessus tout, moi j'ai l'impression, c'est que vous n'aimez pas les faux-semblants.
Ah, je ne sais pas, vraiment vous avez vu ça, vous, oui. Oui, le bling-bling, le... Ouais, ça je pense que c'est l'éducation. J'ai eu un grand-père pasteur, je ne suis pas tellement religieuse moi, mais c'est les parpaillots qui sont comme ça, hein. Les parpaillots ils sont cash.
Oui, oui. Non, mais vous n'avez pas l'hypocrisie. Vous aimez bien rire des choses, des gens et de leur ridicule. Et en ça, vous appartenez à toute une lignée du théâtre.
Oui, et en même temps, moi, j'ai toujours une tendresse pour les imbéciles. Non, parce qu'ils peuvent changer. Et ce qui m'intéresse, c'est comment ils changent. C'est quand même ça, un peu le fil conducteur de tous les films, c'est de voir comment des personnages qu'on pourrait juger comme ci ou comme ça font un chemin de vie et changent, quoi, et voient les choses autrement et prennent des coups, sont dans la douleur, et ça, la douleur, ça nous fait beaucoup progresser aussi.
Eh ben, ça nous amène, vous savez, à votre choix musical, parce que c'est quelqu'un qui a transmis ça, qui a été une mère, qui en a aussi pris plein la tête. Elle s'appelle Nina Simone, et elle chante justement le fait qu'elle n'a rien. I've got nothing, Nina Simone, votre choix.
Ah oui, c'est une très 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 grande musicienne du XXe siècle. C'est une force de la nature, c'est une femme qui a souffert tout ce qu'on peut souffrir quand on est une femme, une black, dans un milieu pauvre et qui avait des dons extraordinaires et qui a été en plus atteinte par la folie et qui est partie, revenue, enfin, c'est une très très grande figure et une immense musicienne.
Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love,
ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, ain't got no nothing.
Écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Voilà, toujours ensemble dans l'émission Entre Chiens et Loups avec Claude Lévy. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir de vous faire partager certaines pages de la vie de Colline Serrault, dont les cordes à son arc sont nombreuses et les flèches aussi de temps en temps, et ça fait beaucoup de bien. Mais il n'y a pas véritablement de méchanceté ni d'agressivité dans votre manière de nous montrer le monde. Je pose encore une question idiote. Êtes-vous humaniste, Colline Serrault? J'entends par là que vous êtes femme de théâtre. Et le théâtre a une histoire millénaire. Je ne sais pas dans quelle mesure vous vous raccrochez, vous, à Shakespeare, à Molière, à Marivaux, à Beckett et à Brecht. Et on imagine pourquoi. Colline Serrault.
Oui, mais c'est-à-dire que je fais partie d'une famille qui a une très longue tradition de théâtre. J'ai commencé à aller au théâtre très jeune parce que ma mère m'emmenait dans toutes les générales quand j'avais 6-7 ans. Donc en fait, j'ai vu des spectacles que maintenant tous les gens qui les ont vus quand ils avaient 20 ans, ils sont morts, quoi. J'ai encore vu Villard, j'ai encore vu évidemment tout le TNP, les débuts d'Avignon, Gérard Philippe, etc. Donc toute cette histoire-là du théâtre et d'autres histoires, l'histoire de l'avant-garde aussi, l'histoire de la grande transformation qui a été le théâtre de l'absurde ou le théâtre du désespoir de Beckett, etc. Et qui ont remis tout à fait en question les formes théâtrales. Et puis avec ma mère était très très cultivée et on lisait nous des fois nous lisait le soulier de satin le soir pour nous endormir, mais on était enfants, hein.
C'est bien pour dormir en fait.
Oui, c'était bien pour dormir. Et on était sensible à, je sais pas, à la langue, à ce rythme. Et évidemment, en plus, comme ils ont voulu que je fasse du latin et du grec, j'ai aussi beaucoup fréquenté le théâtre grec, etc. Donc, je fais partie de cette lignée, ça c'est sûr. Et Molière et Shakespeare, évidemment, que j'ai beaucoup joué aussi. Mais depuis l'enfance, j'ai jamais voulu copier ça. Je pense que ça a été depuis tellement longtemps, tellement imbibé dans mon cerveau, que ça s'est complètement mélangé avec mes propres idées et que ça ressort sans que j'ai besoin d'avoir des références.
Donc vous êtes sans doute une humaniste.
Il faudrait définir ce que c'est qu'une humaniste.
Comme l'était Erasme dans son éloge de la folie. Et vous n'êtes pas loin de ça.
Ah non, pas du tout. Non, je suis assez près. Oui.
Avec le cirque, le cinéma, le théâtre, votre grande passion est la musique, on l'a entendu. Vous êtes chef de chœur et vous travaillez avec des professionnels. Dans quel répertoire, Colline Serrault ?
On a un répertoire qui est très éclectique, mais enfin c'est quand même plus ou moins Bach, Mozart, Handel, Schubert. On est aussi Monteverdi, on fait une espèce d'histoire, on survole l'histoire de la musique et on n'est pas du tout dans un concert pingouin, vous voyez ce que je veux dire ? J'essaye que ce ne soit... Il y a aussi de la musique du monde. On chante des chants de Géorgie qui sont un succès fou. On chante deux ou trois très anciennes chansons françaises du Moyen-Âge. On chante aussi beaucoup de choses de Jeanne-Quin, la guerre, des choses comme ça. J'ai voulu qu'on chante que des chefs-d'œuvre et pas très long. Le plus grand, le plus long, c'est la guerre, c'est peut-être 5-6 minutes. Et entre les morceaux, je raconte la vie des compositeurs, comment ils l'ont écrit, pourquoi ils l'ont écrit. Et donc, c'est comme une espèce de show, quoi, les concerts qu'on fait, et les gens adorent parce que ils écoutent de la musique. Et c'est des chefs-d'œuvre, c'est beau, ils aiment ça. Vous savez, il y a la queue pour voir les grands peintres, à Paris. Les gens, ils savent quand c'est grand. Ils sentent le public. Et là, ils sont heureux, mais ils sont pas exclus. Notre public couvre toutes les couches de la société. On chante beaucoup dans la Drôme, dans des petits villages, dans des grandes villes, dans des cathédrales. On chante dans le Loir-et-Cher, on chante partout. Et parce que les gens, ils sentent que c'est pour eux. C'est pour eux, c'est drôle. Je raconte les choses de manière drôle. C'est touchant. Et il y a pas de frontière. On chante du jazz aussi, du gospel. Il y a pas de frontière dans les musiques. Il y a de la grande musique ou de la nulle, quoi. Et j'essaye de choisir un programme qui soit festif, je présente, et c'est toujours beau, quoi, c'est toujours beau. Et puis on a un quintet qui marche bien, qui est des chanteurs formidables, et voilà.
Voilà, une vie d'artiste, la belle histoire de Colline Serrault, c'est une vie d'artiste. Un immense merci pour votre accueil, votre générosité, votre ouverture. On vous retrouve donc sur la scène du Théâtre Michel jusqu'au mois de décembre. Il faut absolument regarder sur le site les dates. Malheureusement, elles seront trop peu nombreuses. Le public est conquis et nombreux, mais malheureusement, les dates sont pas très nombreuses. Mais vous serez sans doute amené à le rejouer.
En janvier, on va reprendre en tournée aussi.
Voilà, c'est émouvant, éclairant sur ce qu'est une vie d'artiste, et on l'aura entendu, c'est une vie de créatrice et de femme aussi, une femme de tête. Merci Colline Serrault.
Merci beaucoup.
Merci de votre fidélité, et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission Entre chiens et loups. À très vite, et merci de votre fidélité encore.